Le journal est présenté par Fanny Bouvard.
Bonjour à tous. Oui ou non à un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Près d'un million d'électeurs de Loire-Atlantique sont appelés à se prononcer aujourd'hui. Dans un instant, nous retrouverons Véronique Rebérotte dans un bureau de vote de Notre-Dame-des-Landes. On vote aussi en Espagne pour les législatives. 6 mois après le dernier scrutin, le pays doit sortir du blocage politique et retrouver une majorité. Annabelle Grelier est à Madrid pour France Culture. Nous irons aussi à Londres où le Brexit n'en finit pas de diviser citoyens et politiques. Jeremy Corbyn, le leader travailliste, est sur la sellette, jugé pas assez vigoureux pendant la campagne. Enfin, le pape termine sa visite en Arménie aujourd'hui, dans un climat tendu avec les Turcs. Ankara lui reproche d'avoir évoqué le génocide arménien. Les explications à Erevan de Mathilde Imberti. Et puis la face cachée du globe dans 10 minutes. Nadine Hemstein nous emmènera notamment en Tunisie où le président Essebsi tente de relancer l'emploi dans l'industrie. C'est le jour J pour les habitants de Loire-Atlantique. Depuis 8h ce matin, ils doivent dire si oui ou non l'aéroport de Nantes doit migrer à Notre-Dame-des-Landes. Un référendum particulièrement tendu car l'affaire dure depuis maintenant un demi-siècle. Près de 970 000 personnes sont donc appelées à voter. En cas de victoire du non, le projet sera abandonné, assure le Premier ministre Manuel Valls. Mais si le oui l'emporte, les travaux commenceront dès cet automne. Bonjour Véronique Rebérotte, vous êtes en direct de Notre-Dame-des-Landes et dans la commune de 2000 habitants, les électeurs se mobilisent particulièrement.
Oui, affluence des grands jours, on peut le dire, dans les deux bureaux de vote de Notre-Dame-des-Landes. 1600 électeurs inscrits à l'ouverture du bureau, là, à 8h devant l'école où je me trouve. Eh bien, on vient voter à pied, en voiture, en vélo, balai incessant, ce qui ne surprend pas le maire de la commune. C'est quand même la plus concernée par ce projet d'aéroport, le maire de Notre-Dame-des-Landes, Jean-Paul Nau.
Mais aujourd'hui, les gens de Notre-Dame participent, vous avez pu vous en rendre compte dans les deux bureaux de vote, ça participe très très largement. Et on a beaucoup plus de votants que sur des consultations classiques. Mais je savais que les gens de Notre-Dame-des-Landes allaient se mobiliser sans aucun problème sur ce sujet, puisque ça les concerne au premier rang. Et je pense que ce soir, on en aura une très très bonne participation.
Les habitants sont avant tout très contents qu'on leur demande leur avis sur ce vieux projet d'aéroport, même si il est difficile de se déterminer, surtout de croire à un déblocage rapide du dossier, quel que soit le résultat.
Pour la nature, par exemple, l'environnement aujourd'hui, ici, c'est gros espaces verts. Et là, beaucoup, tout ce que j'ai connu, en fin de compte, ici sera détruit. Déjà, ça, c'est un contre. Et un pour, après, c'est vrai que ça va peut-être créer beaucoup d'emplois. Et ouais, c'est compliqué de choisir entre les deux.
C'est bon.
À voter.
Je trouve que c'est bien qu'on donne notre avis pour l'aéroport, parce que c'est nous qui serons tout prêts. On dit ce qu'on pense.
Et vous espérez quoi après tout ça?
Ben, on verra bien. Hein. On acceptera ce que les gens ont dit. C'est parfait, comme ça, on en a marre. On en a marre d'en parler, parce que moi, je me rappelle qu'en 1969, il en a été question de l'aéroport. Et on a dit, bah, c'est pas possible. On a pris ça, c'est le boucher. Un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, pourquoi? Et puis voilà. Et puis vous voyez bien, et puis maintenant, c'est reparti maintenant. Voilà, bah, on verra bien ce qui va se faire ou pas.
La décision par le gouvernement...
Depuis 50 ans, je crois que...
Ça va être reporté sur les prochaines élections, j'imagine, et on prend vraiment les gens pour des imbéciles, à mon avis. Quoi.
Voilà, qui viennent voter tout de même, et on craint quand même que l'affluence soit moindre cet après-midi pour cause de beau temps et de matchs de football à 15h.
Merci beaucoup Valérie Rebérotte, en direct de Notre-Dame-des-Landes pour France Culture avec les moyens techniques de Benjamin Thuyot. Et notez que les bureaux de vote ferment donc à 18h, sauf à Nantes, où les électeurs auront jusqu'à 20h. L'Espagne va-t-elle sortir de l'impasse politique après 6 mois de blocage, faute d'avoir pu former un gouvernement? Les électeurs sont appelés aux urnes pour de nouvelles élections législatives. En décembre dernier, les partis politiques traditionnels, le Parti populaire et le Parti socialiste, avaient été bousculés par les jeunes formations Podemos et le centriste Ciudadanos. Un scénario qui pourrait bien se reproduire aujourd'hui. Annabelle Grelier, vous êtes en direct de Madrid pour France Culture. Les Espagnols votent donc depuis 9h ce matin.
Oui, Fanny, ils ont jusqu'à 20h pour se prononcer. Cette campagne électorale aura été éprouvante, hein, entachée de nouveaux scandales de corruption au sein même du gouvernement, avec le ministre de l'Industrie qui avait dû démissionner il y a 3 mois pour une affaire d'exil fiscal. Puis, il y a quelques jours à peine, le ministre de l'Intérieur pris dans une affaire d'écoute de personnalités catalanes et d'instrumentalisation de l'État. Mariano Rajoy, au pouvoir depuis 2011, a centré son message sur le retour de la croissance, son expérience, sa connaissance du pays, diffusant un spot où il fait de la marche rapide à travers ses campagnes, le milieu rural où vivent ses plus fidèles électeurs. Une campagne basée sur la peur, donc, des nouveaux partis. Depuis le Brexit, Mariano Rajoy a multiplié les appels à l'union sous la bannière du Parti populaire pour faire barrage aux extrémistes, populistes et radicaux de Podemos. Car c'est bien de Podemos d'où peut venir la surprise ce soir. Cette nouvelle formation de gauche vient de s'allier avec les écolo-communistes d'Izquierda Unida. Son leader, Pablo Iglesias, se pose en porte-parole des Espagnols accablés par la crise, les politiques d'austérité, le chômage toujours autour des 20% et la corruption des élites. Selon les sondages, la coalition Unidos Podemos a des chances de passer de la troisième à la deuxième place ce soir, juste après la droite, dépassant le Parti Socialiste, le PSOE, qui avait déjà enregistré le pire score de son histoire aux élections de décembre dernier, Fanny.
Annabelle Grenier, à Madrid pour France Culture. L'Islande, elle, a un nouveau président. Les résultats définitifs viennent de tomber. Et c'est Guðni Johansson, professeur d'université sans étiquette, qui a été élu. C'était la première fois qu'il se présentait à une élection. Les dommages collatéraux du Brexit s'enchaînent et c'est une crise ouverte qui traverse les travaillistes. Jeremy Corbyn, le leader du parti, est dans le viseur. Des ténors du Labour estiment qu'il a sa part de responsabilité dans le résultat du vote de jeudi. L'une de ses responsables et membres, notamment du Shadow Cabinet, Heidi Alexander, a déjà claqué la porte, réclamant un nouveau chef pour le Labour. Et c'est maintenant près de la moitié du cabinet fantôme qui se dit prêt à démissionner. À Londres, les explications de Franck Madvon.
Jeremy Corbyn est un homme honnête, mais ce n'est pas un leader. La déclaration est signée Hilary Benn, en charge des affaires étrangères au Parti travailliste, en tout cas jusqu'à ce matin, car il a été viré par la direction du parti. Il avait de toute façon prévu de claquer lui-même la porte. D'autres responsables du Labour l'ont fait, et d'autres encore devraient les imiter. Au total, la moitié de l'équipe dirigeante du Parti travailliste pourrait démissionner. Une motion de défiance devrait être examinée mardi. Jeremy Corbyn semble déterminé à rester en poste. Il a sans doute encore le soutien des militants, mais sa position sera très inconfortable si les ténors du Labour lui tournent le dos. Il lui est reproché d'avoir fait campagne sans conviction pour le maintien dans l'UE. Corbyn est un ex-eurosceptique. Il a défendu le in du bout des lèvres et de très nombreux électeurs du Parti travailliste ont voté leave. La question du leader du Labour est devenue centrale car la crise politique actuelle pourrait entraîner des élections générales anticipées dans l'année à venir.
Franck Madvon à Londres. Alors dans le même temps, les partisans du Remain continuent de se mobiliser. Près de 3 millions de Britanniques ont signé une pétition en ligne sur le site du Parlement. En Irak, Fallujah libéré du groupe État islamique. Les forces militaires irakiennes affirment avoir repris aujourd'hui le contrôle du dernier quartier de la ville tenu par les djihadistes. La reconquête de la ville est donc terminée. Au moins 1800 activistes ont été tués dans cette opération, selon l'armée irakienne. En Israël, 7 personnes ont été blessées ce matin à Jérusalem dans des heurts sur l'esplanade des mosquées. Des policiers israéliens et des fidèles musulmans se sont affrontés alors que des milliers de musulmans se pressent dans ce lieu saint pour le Ramadan. En Israël, toujours un an après avoir poignardé une adolescente lors de la Gay Pride de Jérusalem, un juif ultra-orthodoxe vient d'être condamné à perpétuité. L'homme d'une quarantaine d'années avait aussi blessé 6 autres personnes lors du défilé. La fin du voyage du pape en Arménie, le chef de l'église catholique qui, dès ses premiers pas sur la terre arménienne, a dénoncé le génocide. Geste apprécié par les Arméniens, mais la Turquie, elle, a réagi fortement, reprochant les propos du pape et notamment le comparant à une mentalité de croisade. Envoyé spécial à Erevan en Arménie, Mathilde Imberti.
Ankara réagit via son vice-premier ministre. L'emploi du terme de génocide est très fâcheux. Selon cette personnalité du gouvernement turc, il voit dans les propos du pape les traces de la mentalité des croisés. Ici en Arménie, ce mot génocide employé par le pape est perçu comme un cadeau fait au peuple. Mais ces paroles n'auront aucun effet à court terme, craint l'archevêque arménien Paren Avedikian.
Non, malheureusement. Ankara continue de s'opposer au pape ou à qui que ce soit qui dénonce le génocide, même si de nombreux Turcs nomment les choses comme elles sont. L'Arménie est prête à la paix, mais la Turquie refuse la main que l'on tend, en particulier Erdogan, qui est à moitié fou.
À son tour, le Vatican vient de réagir aux propos d'Ankara. Le porte-parole du Saint-Siège invite à regarder correctement ce que fait et dit le pape François. Selon le père Lombardi, son intention est toujours de favoriser la paix et le dialogue, de construire des ponts plutôt que des murs.